Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako, vous écoutez Studio Tamani. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition matinale. À la une de l'actualité, les concertations nationales sur la gestion de la transition débuteront demain samedi 5 septembre au Mali. L'annonce a été faite hier soir par le porte-parole du CNSP. Cela fait bientôt 20 jours que le Mali subit les sanctions de la CEDEAO. Ses conséquences se font sentir surtout au niveau de la diaspora malienne qui s'est dit être lourdement frappée par la mesure. La vente des stupéfiants prend de plus en plus d'ampleur dans la ville de Gao. Les vendeurs conscients du danger disent mener cette activité pour subvenir à leurs besoins. Le développement de ces titres dans un instant avec Assetou Kanté, Nhom Djiret à la technique. Les concertations nationales sur la gestion de la transition débuteront ce week-end à Bamako et dans toutes les régions du Mali. L'annonce a été faite hier par le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, au cours d'un point de presse tenu à Kati. Les propos d'Ismaël Ouagé, porte-parole du CNSP, sont recueillis par notre correspondante à Kati, Christine Abibatoudra.
Ainsi donc, le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, porte à la connaissance de tous que la concertation nationale sur la transition débutera le samedi 5 septembre 2020 à Bamako, au Centre international de conférence de Bamako, CICB, et dans les capitales régionales par la tenue d'un atelier de validation des termes de référence sous la direction des gouverneurs. La concertation nationale se poursuivra du 10 au 12 septembre 2020, toujours au CICB, avec la participation des délégués régionaux, nationaux et ceux de la diaspora. Merci beaucoup.
Et cela fait bientôt 20 jours que le Mali subit les sanctions de la CEDEAO, une situation qui est intervenue après le renversement du pouvoir d'Ibeka. Les conséquences de ces sanctions se font sentir de part et d'autre des frontières de la CEDEAO. La diaspora malienne s'est dit être lourdement frappée par cette mesure. Comment elle vit-elle cette situation? Quelle alternative les opérateurs économiques ont-ils adopté? Suivons ce reportage de Mamadou Samasekou.
Selon un des Maliens du Sénégal qui évolue dans les transports de logistique, les sanctions ont vraiment porté un coup dur sur leur domaine de travail. Ils sont maintenant obligés de mettre la main dans la poche pour passer les frontières, explique-t-il. Amadou Sou, transporteur de logistique entre le Mali et le Sénégal.
Fermé, tu es obligé de payer à la frontière en sortant sur le territoire malien, tu dois payer 2000 francs. En même temps, pour rentrer au Sénégal, tu dois payer 5000 francs. Bon, avant, non, tu passais tranquillement, donc il n'avait rien à payer. Vu que les marchandises sont bloquées au port, et puis les Maliens sont les poumons de l'économie de l'Afrique de l'Ouest, donc d'une part, ça n'arrange pas les Maliens, d'autre part, ça ne les arrange pas aussi. Moi, sur la CEDEAO, franchement, enlever la sanction sur le Mali, parce que ça n'arrange personne.
Pour les représentants du Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, les commerçants maliens sur place souffrent beaucoup de ces sanctions. Ces difficultés se font surtout sentir au niveau des transactions bancaires. Ces Maliens affirment que le transfert d'argent se fait actuellement via un système informel. Nouhoun Diallo, président de CSDM Côte d'Ivoire.
Le transfert de fonds est soulagé parce que les opérateurs économiques ils ont des techniques pour transférer l'argent. Ils déposent dans certains bureaux au Mali et c'est récupéré par leurs correspondants au niveau d'Abidjan. Bon, là, quand même, c'est possible. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est surtout le mouvement des marchandises qui est vraiment bloqué. Et la CEDEAO vraiment reconsidère vraiment sa position. On souhaite actuellement avoir une CEDEAO des peuples, une CEDEAO des États. C'est l'appel que j'ai lancé à la CEDEAO.
En attendant un compromis entre la junte au pouvoir et l'organisation sous-régionale, les produits de première nécessité, dont les vivres, le carburant et les médicaments de santé, parviennent à rentrer dans le pays. Tous les regards sont donc tournés maintenant sur les assises des concertations prévues ce week-end à Bamako pour voir l'évolution de la situation.
L'association des consommateurs du Mali, Ascoma, porte plainte contre les chefs d'État de la CEDEAO suite aux sanctions infligées au Mali après le renversement du régime Ibeka. L'Ascoma affirme que la plainte a été déposée hier à la Cour de justice de la CEDEAO. Pour ses responsables, cette décision de la CEDEAO viole les droits économiques des populations maliennes. Abdul Wahab Djakite, vice-président de l'association des consommateurs, joint par Arkia Touré.
Le décret portant fermeture des frontières du Mali constitue pour nous une violation des droits socio-économiques de la population malienne. C'est en ce sens que les consommateurs, à travers l'ASCOMA, ont décidé de porter plainte contre la CEDEAO. En fait, le chef d'État se base généralement sur le protocole additionnel sur la bonne gouvernance, mais qui ne parle pas du tout de sanctions contre la communauté, mais plutôt contre l'État. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de porter cette plainte-là. Nous avons saisi un avocat du Mali qui a constitué un pôle autour de lui.
Est-ce que d'autres organisations vous accompagnent dans cette démarche?
Pratiquement toutes les organisations au niveau de la société civile et également des personnes ressources qui nous ont aidés à déposer cette plainte-là.
8h passées de 5 minutes, réagissez à toutes ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. La crise scolaire se poursuit au Mali. Le Comité national pour le salut du peuple, CNSP, affirme avoir fait deux propositions majeures aux enseignants. Eux, de leur côté, refutent ces allégations. Pendant ce temps, les écoles privées ont pris de l'avance sur les autres. Les élèves de ces établissements ont repris leurs cours depuis juin dernier. Les directeurs des écoles privées se disent prêts pour les examens de fin d'année. Toutefois, ils expriment leur mécontentement face au report des épreuves. Ils invitent donc les autorités à sauver l'année scolaire. Je vous l'annonce dans les titres. Depuis quelques années, la vente des stupéfiants prend de l'ampleur dans la ville de Gao. Les vendeurs de ces produits disent subvenir à leurs besoins à travers cette activité qui n'est pas sans conséquences sur la santé. L'Office central de lutte contre les stupéfiants de Gao dit être confronté à d'énormes difficultés dans la lutte contre la consommation de ces produits dans la localité. Suivons ce reportage de notre correspondant à Gao, Ali Ibrahim.
La vente et la consommation des stupéfiants ont pris de l'ampleur dans la ville de Gao après la crise de 2012. Ces produits se vendent à chaque coin de rue comme des petits pains. Cette situation a transformé la ville en un lieu de ravitaillement des autres pays transfrontaliers. Pour combattre ce phénomène, l'Office central de lutte contre les stupéfiants multiplie les efforts. Selon le chef de la structure, de 2016 à fin 2018, des stupéfiants d'une valeur de 100 millions ont été détruits. Ismaël Touré, directeur de l'Office central de lutte contre les stupéfiants à Gao.
De 2016 à fin 2018, les statistiques de l'Office central des stupéfiants de Gao, l'antenne, nous avons incinéré des produits stupéfiants d'une valeur de plus de 100 millions. Seulement de la ville de Gao, parce que nous n'avons pas habilité à sortir de la ville de Gao. C'est pour vous dire que beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire.
Malgré les efforts, la structure se dit confrontée à d'énormes difficultés qui sont un handicap pour l'exécution efficace de ses missions. Ismaël Touré, directeur de l'Office central de lutte contre les stupéfiants à Gao.
Moi, j'ai un effectif de 4 éléments. Ils ne sont pas véhiculés. Tu as vu là le problème. Et malgré tout ça, nous arrivons à faire ces actions-là. Nous arrivons à saisir des stupéfiants de toute forme. Donc, ça veut dire qu'il y a des difficultés. Mais cette difficulté ne nous amène pas à baisser les bras.
L'Office central de lutte contre les stupéfiants plaide pour une collaboration franche avec toute la population pour mettre fin à ce phénomène.
Mais ce que je demande à la population, particulièrement à la jeunesse, de collaborer avec les services, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les services de stupéfiants, que ça soit l'ordre, il faut collaborer pour que vous puissiez avoir un bon résultat. Vraiment, s'il n'y a pas de collaboration, ça ne marchera pas.
Gao, Ali Ibrahim, pour Studio Tamani.
Nous restons au nord du pays cette fois-ci pour parler d'un autre sujet. Le petit bateau a effectué la semaine dernière son premier voyage sur Tombouctou. Avec à son bord une soixantaine de passagers, l'embarquement est parti de Mopti pour se rendre dans la cité des 333 saints. Cette année, les prix de transport ont connu une réduction, une mesure d'ailleurs saluée par les voyageurs. Le reportage de notre correspondante Maïmouna Moro.
Il est 10h quand accoste le petit bateau à Mopti. Des passagers décontractés descendent de l'embarcation après un voyage de 24 heures. Parmi eux, Tandiwa Nana Touré se dit satisfaite des conditions et du coût du transport pour ses premiers voyages.
On était vraiment satisfait des agents, du menu, tout était ok. On est vraiment contente. Et le prix était vraiment à 20 000. On avait envoyé notre 8500 avant, mais on nous a remis les restants de l'argent. On n'a pas eu de soucis de charge.
Cette année, les autorités ont réduit le coût du transport. Lassana Kone est le représentant de la compagnie malienne de navigation à Tombouctou.
Dans les petits bateaux, le transport de Kabara à Mopti qui était à 38 500, donc a été revu à 20 000 francs. Les autres escales de Diré qui étaient à 8 100 a été revu à 4 500 et Tongwa qui était à 12 000 a été revu à 7 000, ainsi de suite. Les conditions n'ont pas vraiment changé. Donc il y a les repas, les rafraîchissements. Donc c'est qu'il faudrait comprendre qu'avec ces changements de prix, les gens sont tentés maintenant à venir emprunter les bateaux en nombre.
En plus des usagers, les marchands ambulants aussi se réjouissent de la reprise du trafic fluvial, une période pendant laquelle elles aussi se frottent les mains, comme nous le dit ici Mohamed Aguissadiko, commerçant.
L'arrivée du bateau n'est que bénéfique pour moi. Quand ça arrive ici, j'achète et je fais beaucoup de ventes. Je peux gagner jusqu'à 75 000 francs par jour. Et je trouve que la diminution du prix est une bonne chose pour tout le monde.
En période hivernale, le bateau reste le moyen le plus sollicité à cause du mauvais état des routes et de l'insécurité qui règne sur ces tronçons. De Tombouctou, Maïmouna Moro pour Sidio Tamani.
À présent, la situation de la COVID-19 au Mali. À la date de ce jeudi 3 septembre 2020, les autorités sanitaires ont enregistré 5 nouveaux cas positifs, 18 patients guéris et 0 décès. La situation cumulée est de 2807 cas positifs, 2203 patients guéris et 126 décès. Place maintenant à notre rubrique Actu COVID présentée par Aïssata Diarra et Khalifa Goïta.
Bienvenue à ActuCovid, notre bulletin d'information sur le coronavirus. Au Mali, les laboratoires numériques ont confectionné divers équipements, dont des robots pulvérisateurs et des prototypes de respirateurs. Parmi ces sociétés figure Donifab. Plus de détails dans ces reportages de Khalifa Goïta.
Ils sont au nombre de 4 jeunes développeurs maliens à fabriquer ces appareils. L'initiative vise non seulement à lutter contre les fake news, mais surtout de soutenir les malades de COVID-19. Ces jeunes profitent de l'innovation technologique pour proposer des solutions numériques aux problèmes de l'air. Fousseni Damélé, développeur à Donifab.
La dernière innovation qu'on a eu à faire, c'est d'un respirateur artificiel, qu'on peut le dire. Donc, dont la fonction principale est de contribuer à maintenir des vies, c'est-à-dire des patients en voie de détresse respiratoire de la maladie à coronavirus.
Si des équipements comme le dispositif intelligent de lavage des mains au savon ou encore des pulvérisateurs ont fait leurs preuves dans des entreprises publiques et privées, tel n'est pas le cas pour le respirateur artificiel. Les incubateurs l'expliquent par le manque d'équipement adéquat pour l'adapter aux recommandations des services de santé. Fousseni Damélé, développeur à Donifab.
Les respirateurs, pour le moment, il ne peut que remplacer la ventilation mécanique que les médecins font avec leurs mains de façon manuelle. On a rencontré les médecins qui s'occupent de la réanimation au niveau du point G. Ils ont vraiment apprécié l'initiative. Ils nous ont fait des recommandations dont on est en train d'appliquer jusqu'à présent. On n'a pas accès au matériel de robotique adéquat. Il faut que l'État s'implique davantage à soutenir les initiatives concrètes.
Pour de nombreux observateurs, ces innovations sont salutaires. Ils estiment que d'autres jeunes doivent emboîter le pas non seulement dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, mais surtout dans d'autres domaines lucratifs.
100 000 morceaux de savon ont été produits par la coopérative des femmes transformatrices et productrices Benkadi de la commune rurale de Bendougouba à 12 km de Kita. Pour les responsables du groupement, l'initiative est destinée au renforcement du lavage des mains contre la maladie à coronavirus dans la commune. L'initiative est financée par le projet de gestion décentralisée des forêts. Écoutons maintenant la question d'auditeur. Elle est répondue par professeur Daouda Kassim Menta, expert COVID-19 et spécialiste des maladies infectieuses.
Allô docteur, pour la prévention de la COVID-19, il est recommandé de se laver les mains au savon. Est-ce que l'usage du même savon peut-il propager le virus?
Non, pour le moment pas. Il est toujours recommandé d'utiliser du savon liquide, mais s'il s'agit du savon solide, l'usage multiple n'a pas constitué encore de facteur de transmission.
Ainsi prend fin ActuCovid de ce matin. À demain, n'oubliez pas, pour vous protéger de la maladie, évitez les poignées de main.
Sidio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
8 ans passés de 13 minutes, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de Studio Tamani. Dans quelques instants, ce sera la version Bambara avec Mohamedou Touré. Mais avant tout de suite, le magazine.